Radio Kapi.
Au sommaire, les territoires de Rutshuru et Masisi, au nord Kivu, touchés par une série de braquages attribués à des groupes armés. Sont victimes de ces attaques plusieurs civils, parmi lesquels des commerçants et des responsables d'écoles, selon des sources locales. Et difficile de se procurer un sac de 50 kg de maïs des Kanyama Kasese en Mbujimayi dans les Kasaï occidentales, dans les Kasaï orientales. Cela fait suite à l'engouement observé au point de vente créé par les femmes revendeuses de maïs. L'invité de ce journal est le coordonnateur national du programme d'appui à la mise en valeur durable des zones des savanes et forêts dégradées. Willy Makiadi parle du bilan positif selon lui de ce programme avec la transplantation d'au moins 6800 hectares de cultures pérennes en l'espace de 3 ans et demi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nord Kivu pour commencer. Les territoires de Rutshuru et Masisi touchés par une série de braquages attribués à des groupes armés. Plusieurs civils, notamment des commerçants, des choristes et des responsables d'écoles ont été victimes de ces attaques, selon des sources locales. Des détails avec vous, Jean Gandou.
À Rutshuru, trois femmes vendeuses des poissons revenant de Vichumbi et voyageant en moto ont été attaquées vendredi sur l'axe Ruindi-Kibirizi en plein parc de Virunga. Elles ont perdu marchandises, argent et téléphone. La veille, dans la même zone du parc, des choristes de deux églises de Vichumbi en excursion vers Kiwanja ont également été dépouillés lors d'une embuscade similaire à mi-chemin entre leur lieu de provenance et la route nationale numéro 2. Dans le territoire voisin de Masisi, trois chefs d'école primaire de Nyamaboko, notamment Rutoboko, Luimbi et Bulindi, et une dizaine de commerçants ambulants ont été interceptés jeudi soir entre Ngoulou et Luke. Les assaillants ont volé l'argent destiné aux enseignants, les téléphones et les marchandises. Ces attaques qui surviennent à l'approche des fêtes de fin d'année inquiètent les habitants. L'identification des auteurs reste difficile dans une zone occupée par l'AFC M23, mais où opèrent également les Wazalendo et autres groupes armés.
Au sud Kivu, le chef de la chefferie de Bavira, Romain Lengue, appelle ses administrés à l'unité et au soutien mutuel en cette période marquée par la crise sociosécuritaire et humanitaire dans les territoires d'Uvira. Cette autorité coutumière s'exprime alors que des milliers de déplacés congolais vivant au Burundi se trouvent dans des conditions difficiles. Selon son constat, ces citoyens ayant fui les combats entre les rebelles de l'AFC M23 et les forces loyalistes n'ont bénéficié jusque-là d'aucun appui humanitaire. Il en appelle au soutien du gouvernement et des organisations humanitaires. Il a été joint par Ronéline Tibonera Idiamine.
Et je profite de cette occasion surtout d'interpeller le gouvernement central de pouvoir intervenir rapidement pour sauver les vies humaines, surtout des réfugiés qui sont au camp. Donc, aucune assistance, je dirais, humanitaire par le gouvernement provincial et aussi les acteurs humanitaires. Étant les rois, je pense qu'on ne devrait pas vraiment se limiter aux paroles. Nous devons vraiment fournir des efforts pour que nous puissions vraiment alerter sur cette situation. Et aussi, je présente mes vives compassions et aussi des réconforts à la population maîtrise d'Ouvira. Nous devons être soudés, devons être unis pour combattre l'ennemi qui est le M23 soutenu par le gouvernement rwandais.
En Ituri, deux anciens membres fondateurs de la Convention pour la Révolution populaire, CRP, accompagnés d'une délégation du ministère de la Défense, sont arrivés hier vendredi à Bunia en provenance de Kinshasa. Au cours d'une interview accordée à la presse, Charles Kakani et David Unierto disent venir sensibiliser les jeunes combattants de la CRP qui sont encore dans la brousse à déposer les armes en suivant leur propre exemple afin de contribuer au développement de l'Ituri. Ces anciens collaborateurs de Thomas Lubanga indiquent que l'heure n'est plus à la violence armée, mais plutôt à la recherche d'une paix véritablement durable dans cette province, ce qui permettra d'attirer les investisseurs en Ituri. Charles Kakani, ancien premier vice-président de la CRP, est au micro de Martial Kizabiamungu.
Comme nous venons de quitter la structure qui était très bien connue à la CRP, il y a aussi des jeunes combattants qui sont encore à brousse. Mais c'est l'État qui comprenne que la CRP est une voie sans issue. Nous devons reconstruire la paix, on doit rentrer à la maison, puisque l'objectif assigné par rapport à la réalisation du moment, il y a une contradiction très flagrante. Sous les guidelines du gouverneur de la province, le lieutenant général Johnny Lubois Kachoma, que nous devons prendre maintenant l'itinéraire de tous les cinq territoires avec des messages clés que nous devons ramifiés au niveau de toutes les entités aussi coutumières. Mutualisons nos forces pour construire ensemble cette paix, que ce ne soit pas une paix de façade, mais nous devons parvenir à la paix durable, puisque le véritable nom de la paix, c'est le développement. Car sans la paix, le développement n'a pas l'accès.
Dans la province du Tanganyika, une centaine de militaires et policiers ayant fui ou viré lors de la prise de la ville par les forces rebelles de l'AFC M23 sont jugés à Kalemie. Les audiences foraines organisées par le tribunal militaire des garnisons de Kalemie se tiennent au camp marin à Kalemie depuis hier vendredi. Les prévenus sont poursuivis pour abandon de poste après la chute de la ville d'Ouvira. Le point avec Paul Mounanga.
L'audience de ce vendredi a été consacrée à l'identification des prévenus. Sur les 124 prévenus, dont 68 militaires et 56 policiers, 66 d'entre eux ont été identifiés. Et cette procédure va se poursuivre à l'audience de ce samedi, précise le président du tribunal militaire des garnisons de Kalemie. Celui-ci indique que ce procès vise à sanctionner les éléments des forces de défense et de sécurité qui ont failli à leur devoir et ont violé les consignes en fouillant les forces rebelles de l'AFC M23. Pour le président du tribunal militaire des garnisons de Kalemie, l'objectif est de rétablir l'ordre et la discipline au sein des forces armées et de la police. Le lieutenant-colonel Désiré Diondamoukole précise qu'il est question de ramener sur les rails les militaires qui se méconduisent. Les militaires et les policiers qui sont affectés dans le sud Kivu doivent faire mouvement sur ordre de leur hiérarchie, fait remarquer le président du tribunal militaire des garnisons de Kalemie. Le ministère public poursuit ces éléments pour n'avoir pas respecté les règlements et la discipline militaire et policière. Lubumbashi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
En bref, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a voté hier vendredi 19 décembre à l'unanimité pour le prolongement d'un an de la force de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo. La résolution étend jusqu'au 20 décembre 2026 le mandat de la MONUSCO. Au Kasaï oriental, il est actuellement difficile de se procurer un sac de 50 kilos de maïs de Kanyama Kasese. C'est la suite à l'engouement observé au point de vente créé par les femmes revendeuses de maïs. Le gouverneur de province a été sur place jeudi dernier. Jean-Paul Mbouéboué Kapo a instruit que chaque client se procure seulement d'un sac pour permettre à tous les acheteurs d'accéder à cet aliment de base. Reportage d'Esther Ndalafina rendu par Jean Gandou.
Au point de vente de maïs de Kanyama Kasese, situé sur la route du parquet, plusieurs femmes attendent devant la parcelle pour obtenir le jeton pouvant leur permettre d'acheter le sac de maïs. Certaines sont arrivées à cet endroit vers 5h du matin et pourtant les dépôts ne s'ouvrent qu'aux environs des 9h. Les bousculades commencent dès que les agents des services nationaux arrivent pour ouvrir les dépôts. Une femme trouvée sur place dit n'avoir acheté que 2 sacs sur les 4 proposés.
Ils sont venus me chercher pour Kanyama Kasese. Il y a plein de monde ici. Ça fait 3 jours que nous venons sans acheter même un sac de maïs.
Au cours de la visite surprise effectuée jeudi dernier au dépôt du maïs du marché Bakwadianga, le gouverneur des provinces a déploré le système mis en place pour vendre cette denrée alimentaire. Jean-Paul Mbouéboué a donné des instructions claires.
Nous sommes venus nous-mêmes nous rendre compte de cette réalité. Vendent toujours à 50 000. On a mis de l'ordre et chacun aujourd'hui a acheté son sac au prix fixé de tout ce temps. Chacun résume un sac par personne.
Signalons qu'après la visite du gouverneur au point de vente de maïs, plusieurs autres sacs de maïs de Kanyama Kasese ont été retrouvés et récupérés dans les dépôts du grand marché de Bakwadianga.
Et puis, les activités de lutte anti-érosive amenées au cours de l'année 2026 dans la ville de Kananga, au Kasaï central, sont déjà planifiées. C'était au cours de la 4e session du comité de pilotage provincial du projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga, tenu sur place jeudi dernier. Ce projet du gouvernement congolais est financé annuellement par la Banque mondiale à hauteur de 57 millions de dollars américains. André Katendenga Lamouloumé pour plus de détails.
Placé sous le thème « Développement urbain résilient, cap vers des solutions durables pour la protection de la ville de Kananga », la session a réuni les autorités provinciales, les services techniques de l'État, les partenaires du projet ainsi que des représentants de la société civile. À l'issue des travaux, plusieurs décisions ont été prises pour assurer la réussite du projet. Parmi elles, la réalisation d'études approfondies adaptées à chaque avenue et l'accélération de la mise en place des comités de gestion de plaintes sur tous les sites. Les participants ont également recommandé l'implication des ONG locales dans la sensibilisation communautaire, l'harmonisation des travaux avec la SNEL et la Régie des eaux afin d'éviter les coupures d'eau et d'électricité, ainsi que la collaboration avec la mairie pour l'indemnisation de personnes affectées par le travaux. Enfin, le caractère urgent du projet a été rappelé avec la priorité accordée à la construction des ouvrages de drainage et à la collaboration étroite avec les services techniques de l'État pour une mise en œuvre efficace. Kananga, André Katindengala Moulumé, Radio Okapi.
L'ancien ministre belge de la Défense, André Flao, salue l'accompagnement de la Belgique dans le renforcement des capacités des forces armées de la République démocratique du Congo. Il a fait savoir hier vendredi au vice-premier ministre et ministre congolais de la Défense qu'il a reçu en audience à Kinshasa. Les explications avec Blaise Nongala Mayanda.
En séjour dans la capitale congolaise, dans le cadre des projets avec la ville de Kinshasa, André Flaout a salué la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Belgique. À cette occasion, Guy Kabombo et son hôte ont échangé longuement à huis clos. À l'issue de cette audience, cet ancien haut fonctionnaire belge s'est exprimé en ces termes, je cite, « Je crois fermement, comme un ancien ministre de la Défense belge, qu'il est important de s'inscrire dans un mouvement qui remet l'ordre du jour, la souveraineté entre la RDC et la Belgique, par les partages d'expériences. » Fin de citation. Il a également salué l'accompagnement de Bruxelles dans les renforcements des capacités des forces armées de la RDC. La visite d'André Flaout intervient quelques jours seulement après celle du ministre belge de la Défense et du Commerce extérieur, Théo Franken. Lors de sa toute première visite officielle en RDC, ce dernier avait réaffirmé le soutien de son pays face aux défis sécuritaires qui traversent l'est de la RDC.
Retour au Nord Kivu, où le Parlement d'enfants tire la sonnette d'alarme à propos de la persistance de l'exploitation économique des enfants à Beni et qui s'aggrave en cette période de fête. Des mineurs contraints de vendre ou de transporter des marchandises dans les rues, une pratique qui viole leurs droits fondamentaux. Joël Kamala Kavuya appelle les adultes à agir pour protéger l'avenir des enfants. Il explique au téléphone de Marc Marofimbo.
Quand on parle d'exploitation et abus sexuels, on constate malheureusement dans nos communautés que certains parents, ces derniers temps, sont prêts à utiliser leurs enfants pour obtenir un avantage économique, se faire payer, recevoir de la nourriture ou de l'argent. Pourtant, ce sont bien les parents qui doivent sensibiliser leurs enfants et leur montrer les dangers de l'exploitation et abus sexuels. La prévention et la lutte contre ces pratiques ne doivent pas incomber uniquement aux Nations Unies ou aux ONG. Le parent en tant que tuteur, joue un rôle central dans l'éducation et la sensibilisation dès la maison, c'est-à-dire étant que cellule de base, complétée par des actions dans les écoles et les églises. Il faut alerter les enfants et les jeunes sur les dangers de l'exploitation, des abus sexuels et sur leur impact destructeur pour nos sociétés. Cette sensibilisation doit s'accompagner d'une incitation à dénoncer et signaler ces pratiques afin de protéger nos communautés et prévenir notre avenir.
Actualité internationale.
Au Bénin, l'opposant politique et ancien ministre délégué à la Défense, Candide Azanaï, a été placé en détention provisoire dans la nuit de vendredi à ce samedi 20 décembre 2025. Selon ses conseils, il est poursuivi pour complot contre l'autorité de l'État et provocation directe à la rébellion. Interpellé le vendredi 12 décembre dernier dans le cadre de l'enquête sur la tentative de coup d'État avorté du 7 décembre 2025, il devient la première personnalité politique placée sous mandat de dépôt dans ce dossier.
L'invité.
Il s'agit du coordonnateur national du programme d'appui à la mise en valeur durable des zones de savanes et forêts dégradées, PSDF en sigle. Willy Makiadi parle du bilan qu'il juge positif de ce programme avec la transplantation d'au moins 6800 hectares de cultures pérennes en l'espace de 3 ans et demi. Willy Makiadi s'entretient avec Blaise Dongala Mayanda.
Bonjour Monsieur Willy Makiadi.
Bonjour Monsieur les journalistes.
Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la 5e réunion du comité de pilotage du programme d'appui à la mise en valeur durable des zones des savanes et des forêts dégradées?
Ce que vous pouvez retenir du 5e comité de pilotage est que c'est l'avant-dernière copie du projet par rapport à la phase initiale du projet. Et pendant que nous sommes en train de faire ces copies, le projet a réussi encore une subvention additionnelle de 8 millions pour continuer la phase D. Donc, on est entre la fin de la phase initiale. Normalement, le projet devait prendre fin au 31 décembre 2026. Donc, on a fait une programmation pour solder, pour utiliser les reliquats de l'argent restant du projet. Parce qu'en fait, le projet PSFD, c'est un projet qui a débuté en 2022. Jusqu'à aujourd'hui, on est à presque 3 ans et demi. Et le projet a fait une exécution financière de 79%. C'est-à-dire, on a atteint les investissements physiques. On devait réaliser cette mise 1400 hectares de cultures pérennes. On est à 6800 hectares transplantés en 3 ans et demi. Et par rapport à ces rapports financiers 2025, on avait un budget de presque 5 millions et on a exécuté 4 millions de. Donc, le PCFD a presque réalisé toutes les assignations qu'on lui a données. Et c'était aussi l'occasion où le ministère de l'Agriculture a fait entendre sa voix par rapport au montant de la subvention, parce qu'on sait que l'agriculture est le moteur de déforestation.
Vous estimez à combien les financements globaux avec les fonds additionnels de 8 millions?
Les fonds additionnels de 8 millions vont nous permettre de consolider nos interventions au niveau des deux provinces, la Tchopo et la province de Kwilu, où nous allons faire à peu près 4800 hectares additionnels, sachant que les PCFD, selon le mode opératoire, ils travaillent avec les organisations paysannes qui se mettent autour d'un opérateur économique et qui forment ce que nous appelons une alliance productive. C'est-à-dire qu'il y a des synergies entre l'opérateur économique qui est le destinataire final du produit qui vient des organisations paysannes ou des paysans. Et lui, soit il va les transformer, soit il va les commercialiser.
Quelles sont les provinces de mise en œuvre de ces projets à travers les pays?
Nous avons pour l'instant des provinces. En fait, le projet PCFD est dans une phase pilote. Et pour la phase pilote, on a choisi une zone savanicole, c'est le Kwilu, et une zone forestière, c'est la Tchopo. Donc, on a encore des zones. Dans ce projet, il y a une troisième composante qui concerne la duplication de ce qui est fait, des expériences qui sont menées actuellement.
Bénéficiez-vous de l'appui des quelques bailleurs dans la mise en œuvre de ces projets?
Le projet est financé par CAFI, c'est en fait l'initiative de forêt de l'Afrique centrale qui regroupe 9 pays. Et l'argent là est capté par Fonarel. C'est Fonarel qui administre, qui gère au quotidien ces fonds-là. Donc il y a un conseil d'administration, un comité de pilotage qui est présidé par le ministre des Finances et il y a le ministre de l'Environnement et le vice-président de ces comités. Nous bénéficions, c'est un financement qui vient de CAFI et il y a la Norvège qui est l'un des grands contributeurs de ces fonds-là.
Quelles sont les difficultés connues tout au long de l'exécution de ces projets?
On a parlé d'abord des problèmes de sécurité foncière, on a parlé des problèmes de bancariser les paysans. Nos banques ne sont pas encore dans les milliers réquilés. Donc, il est question pour nous, quand on fait de paiement, de sécuriser ces paiements-là et d'amener aussi les paysans de bénéficier des différents produits qu'offre la banque. Donc, c'est ça la difficulté. On ne sait pas payer directement, sécuriser les paiements qu'on fait vis-à-vis des producteurs. On est obligé de passer par l'opérateur économique. Donc, vous savez, il y a quand même un niveau de risque quand vous passez un paiement qui est destiné à une personne qui passe via quelqu'un d'autre.
Monsieur Willy Makiadi, nous vous disons merci.
Et moi, monsieur le journaliste, je vous dis merci.
C'était notre invité, le coordonnateur national du programme d'appui à la mise en valeur durable des zones de savanes et forêts dégradées, PSDF en sigle. Willy Makiadi s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda. C'est la fin de cette édition qui a été coordonnée par Jean Ganduka Bongo et mise en onde par Pierre Diassinois. Je vous en rappelle les principales articulations. Les territoires des Rutshuru et Masisi au Nord Kivu, touchés par une série de braquages attribués à des groupes armés, sont victimes de ces attaques. Plusieurs civils, parmi lesquels des commerçants et des responsables d'écoles, selon des sources locales. Difficile de se procurer un sac de 50 kg de maïs de Kanyamakasese en Mbujimayi, dans le Kasaï occidental. Cela fait suite à l'engouement observé au point de vente créé par les femmes revendeuses de maïs. Notre invité était le coordonnateur national du programme d'appui à la mise en valeur durable des zones de savane et forêts dégradées. Willy Makiadi parlait du bilan positif, selon lui, de ce programme, avec la transplantation d'au moins 6800 hectares de cultures pérennes en l'espace de 3 ans et demi. Merci pour votre fidélité à Radio Capi.